Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Merci d'écouter RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Poursuivant le cycle des interviews que l'on peut réaliser dans le cadre du Festival Est-Ouest 2012 avec la Croatie en invité, j'ai le plaisir d'être avec Sonia
Ristić.
Ristić, voilà. C'est Ristić parce que c'est ce C qu'on ne sait pas encore prononcer correctement.
Pourtant,
en français.
Quand il y a des joueurs de foot, tout le monde y arrive.
Ah ouais, moi, je ne suis pas foot, je suis désolé.
Moi non plus, mais il paraît que tout le monde prononce très bien les noms des joueurs de foot.
Ah, je sais dire Novak Djokovic.
Bah voilà.
Alors, je devrais le faire. Voilà. Sonia Ristić, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, effectivement, je vous le disais hors antenne, je ne vous connais absolument pas. Et alors, pour cela, nous allons commencer par...
Je ne vous connais pas non plus.
Oui, bah alors moi, je m'appelle Baptiste. Enchanté. Et donc, je voulais, pour que les auditeurs vous situent un peu plus, commencer par peut-être une petite biographie, mais rapide, hein, ce que vous avez envie de dire de vous.
Alors, je suis née en 72 à Belgrade, en ex-Yougoslavie, de père serbe et de mère croate. J'ai grandi entre l'ex-Yougoslavie et l'Afrique, notamment le Congo, la Guinée, le Gabon, d'où le français, puisque l'ex-Yougoslavie, la Serbie, la Croatie, tout ça, c'est pas très francophone. Et je vis à Paris depuis 1991, où je suis venue faire mes études, et puis 21 ans sont passés depuis, donc je suis restée, je suis une Parisienne d'adoption. Je suis majoritairement auteure, de théâtre, mais aussi de romans, de chroniques, de nouvelles et de temps en temps metteur en scène aussi.
En français, vous écrivez ?
Oui, j'écris en français. J'écris uniquement en français.
Et alors, est-ce que vous êtes traduite en croate pour retourner dans le pays ?
Pas du tout. Non. Alors, je suis un peu l'invité erreur du festival Est-Ouest.
Ah.
Un peu l'invité chercher l'erreur parce que mon travail n'existe absolument pas en Croatie. Je ne travaille pas là-bas, je n'y vis pas. J'y passe 2-3 mois par an, mais on va dire en vacances, en famille. Mes textes ne sont pas traduits en croate, mes pièces n'ont jamais été représentées là-bas. Donc je suis une fausse croate, je suis une croate parisienne.
Vous avez parlé d'un père bosniaque et d'une mère croate.
D'un père serbe et d'une mère croate, oui.
Bon, alors comment ça se passe ? Comment ça s'est passé ? Comment ça se passe ? Je veux dire, avec l'histoire qu'a connue l'ex-Yougoslavie.
Alors, pour ma génération, donc début des années 70, et puis même quelques générations après, c'était assez banal. C'était pas si rare que ça. Il y avait beaucoup de gens croates, enfin vivant en Serbie, l'inverse aussi. En Bosnie, c'était très mélangé. Donc pour ma génération, c'était très fréquent. Il y avait rien de particulier. Aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu plus rare, mais ça existe toujours. Et concrètement, entre mes parents, ça s'est très bien passé ou très mal passé, mais ça n'a rien à voir avec leurs origines. Enfin, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient serbes et croates.
D'accord. Il n'y a pas eu de problème avec la guerre ?
Il y a eu beaucoup de problèmes, pas entre nous, pas entre eux.
Même entre leurs familles, par exemple ?
Ni même entre les familles, aucun. Parce que dans la famille, ce n'est pas le seul couple, entre guillemets, mixte. C'est très fréquent aussi dans la famille. Après, ça rend les choses très, très difficiles à certains moments. Dans les années 90, quand j'allais en Croatie, vu que mon nom de famille est typiquement serbe et que je suis née à Belgrade, à chaque fois que je me faisais... qu'on me demandait de montrer mes papiers, la police, les barrages, les militaires, etc. Ça ne leur plaisait pas beaucoup. Donc, j'ai passé beaucoup de temps en interrogatoire à divers postes de police frontaliers et autres. Tout était beaucoup plus compliqué dans les années 90, aussi bien en Serbie qu'en Croatie, pour ces familles dites mixtes. Et puis, disons que ces dernières années, c'est devenu à nouveau banal et c'est un tout petit peu plus simple. J'ai eu le malheur de perdre mes papiers vendredi soir à Paris. notamment mon passeport, que donc je dois refaire à l'ambassade de Croatie. C'est un peu compliqué parce que mon extrait d'acte de naissance est à Belgrade et qu'ils veulent une traduction puisqu'ils ne veulent pas un formulaire en cyrillique, etc., etc. Donc il y a quelques petites complications qui subsistent, mais les complications administratives ne sont pas propres à l'ex-Yougoslavie. Je pense que ça existe un peu partout.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça c'est une sacrée anecdote, cette histoire de langue qu'ils ne veulent plus maintenant.
A priori, tout le monde parle la langue et je pense que tous les gens qui ont mon âge ou plus, on va dire même de 35 ans et plus, je pense qu'ils lisent le cyrillique puisque à l'école, ils l'ont appris enfant. Alors, est-ce qu'ils l'ont oublié ? J'en sais rien. Est-ce qu'ils refusent de le lire ? J'en sais rien. Mais le fait est que mon extrait d'acte de naissance tel que je l'ai, en cyrillique, n'est pas accepté par l'ambassade de Croatie. Il me faut un formulaire international. Donc, voilà.
Est-ce que, encore pour poursuivre un tout petit peu dans cette thématique, est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez aussi dans vos textes, dans votre écriture, cette histoire-là ?
Forcément, je pense. J'ai beaucoup écrit, notamment au théâtre, de pièces qui s'appuient sur les histoires des guerres ex-Yougoslaves. Puisque peut-être c'est les choses que avec lesquelles j'ai été le plus en contact et que même sans le vouloir, ce sont des situations, des personnages, des ambiances qui me reviennent, mais sans forcément avoir un besoin de me défouler ou de me débarrasser de ça. C'était vraiment du matériau littéraire. C'est pas du tout cynique ce que je dis, c'est du bon matériau littéraire.
Il n'y avait pas non plus de désir de devoir de mémoire, par exemple, parce qu'on sait que dans ces pays-là, pour l'instant, c'est pas encore en Croatie, par exemple, c'est pas encore tout à fait bien passé.
Non, c'est pas du tout bien passé. Après, moi, je me méfie toujours de ces choses-là, devoir de mémoire, témoignages, etc. Je ne sais jamais où s'arrête la littérature et où commence la propagande, et je voudrais vraiment être du côté de la littérature et pas de la propagande. Donc, j'écris de la fiction. Je ne suis pas historienne, je ne suis pas politologue. J'essaye de le faire le plus honnêtement possible. Et d'ailleurs, souvent, c'est à part deux textes dont l'action est précisément localisée à Sarajevo pour Sniper Avenue et à Belgrade pour Orage. Les autres, je ne dis pas où ça se passe. Je ne dis pas de quelle confession sont les personnages. Les connaisseurs peuvent deviner ou avoir des indices, mais ce n'est pas ça qui est important. Je me sers vraiment de choses, on va dire, plus universelles. C'est dans certains textes, oui, certains disent c'est forcément l'ex-Yougoslavie parce qu'ils savent que je suis ex-Yougoslave, mais ce pourrait être le Liban, ce pourrait être la Tchétchénie, ce pourrait être le Congo. Malheureusement, les endroits de conflit
C'est plutôt
pas.
Un endroit de conflit qui est décrit. Voilà. Puisqu'on a oublié de préciser que vous êtes en fait, auteur, mais dramaturge surtout. Donc c'est plutôt sombre, réel, réaliste, même si c'est de la fiction.
Réaliste, non. Je pense que je travaille beaucoup sur la transposition poétique. Après...
Je veux dire sur la dureté des sentiments plutôt.
Oui. Enfin, je suis pas très bonne pour parler de cet aspect-là. Oui, ça s'ancre dans des réalités qui ne sont pas forcément joyeuses. Après, je pense que c'est aussi plein d'humour et que ce n'est pas que sombre.
Ben justement, on pourrait décrire peut-être un peu plus votre travail précisément. Vous avez cité deux pièces en tout cas dont l'action se situe.
Ça fait partie, on va dire, de la première phase de mon travail publié qui tournait beaucoup autour des questions de guerre. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus sur d'autres questions. Je suis sur la question de la langue, de la forme, sur des questions plus esthétiques, sur beaucoup la question du féminin. Donc ça, c'est pas forcément propre aux Balkans ou à mes pays d'origine. C'est des interrogations plus générales.
Justement, j'allais vous demander quelle influence a pu avoir le fait de quitter l'ex-Yougoslavie pour aller vivre un peu en Afrique, donc vivre des choses vraiment différentes, je pense, d'un système occidental ou qui aspire à l'Europe, comme c'est le cas de la Croatie aujourd'hui, et puis Paris aujourd'hui.
Je pense que ça habitue depuis. Moi, j'ai commencé à être confrontée à des endroits différents, à des cultures différentes très très jeune, à l'âge de 5-6 ans, en suivant mes parents. Et je pense que sans en être consciente à l'époque, ça crée un rapport à l'autre, un rapport à l'altérité tout de suite dès l'enfance, une sorte de capacité d'adaptation très très rapide. Et puis un sentiment de fraternité humaine qui n'a rien à voir avec la couleur de la peau ou la confession ou les origines ou la culture, c'est-à-dire qui se passe sur l'humain tout simplement. Donc c'est j'aurais pu le vivre très mal. Il y a des enfants d'expatriés, de diplomates, etc., qui le vivent très mal d'être baladés comme ça, de quitter leurs copains d'école, de changer de ville tout le temps. Moi, je l'ai vécu très très bien, c'était au contraire une éternelle aventure, et je pense que quelque part peut-être ça n'a pas rendu l'exil en 91 plus facile, parce que l'exil n'est jamais facile, mais en tout cas concrètement je m'adapte très rapidement aux gens, aux endroits, donc peut-être ça a été plus facile pour moi. Après, tout ce qui est plus affectif, qui est le fait de voir le pays dans lequel on est né disparaître dans une guerre sanglante qui va durer pendant des années, ça on n'y est jamais préparé, ça on est, c'est jamais facile.
Alors, est-ce que c'est ce qui reste et qui transpire quand même dans votre travail, du coup, de dramaturge ?
De certains, oui. Il y a certains textes qui parlent de ça, qui parlent de l'exil, qui parlent de la question identitaire, de comment on se définit une fois que ce qui nous définissait jusque-là cesse d'exister. Enfin, très concrètement, la nationalité que j'ai eue jusqu'à mes 19 ans, je ne l'ai plus, puisque ce pays n'existe plus. Donc, et les nouvelles nationalités que j'ai acquises par la suite ont été aussi très, très réductrices pour moi, puisque ça correspond à un sentiment nationaliste très fort, aussi bien en Serbie qu'en Croatie, dans les années 90, etc. Donc forcément, c'est présent dans mon travail. Ce sont des choses sur lesquelles je m'interroge et qui transpirent dans mes textes. Mais très vite aussi, au bout de quelques années, il y a le besoin d'aller chercher ailleurs, de parler d'autres choses, de s'ouvrir à d'autres horizons, de ne pas rester enfermé dans ce quelque chose de très... Encore une fois, c'est pas du tout cynique ce que je dis, mais dans quelque chose de très folklorique, qui est finalement l'ex-Yougoslavie, la guerre, etc.
Mais est-ce que c'est pas ça qui vous a fait connaître quand même, puisque finalement, en tout cas en France, je sais qu'on est, c'est presque, c'est pas le bon mot non plus, mais on est quand même assez friand de savoir ce qui s'est passé à cette époque-là, dans ce pays-là qui était parfois vu aussi comme un idéal, la Yougoslavie, un idéal de socialisme qui fonctionne, plus ou moins, oui. Et ce que nous autres pays du reste de l'Europe n'avons jamais atteint. Et puis cet effondrement, je sais qu'en France, il y avait quand même il y avait une recherche, on voulait savoir ce qui s'était passé.
Alors sans doute que ça a joué, même si moi j'ai écrit sur ces choses-là bien après les événements, c'est-à-dire il y a quand même 10 ans de recul. J'ai pas écrit sur le vif, et j'espère que c'est aussi ma recherche d'auteur qui touche purement à la langue, à la forme, à une manière d'écrire, à une manière de raconter des histoires qui a aussi joué. Je ne peux pas savoir, moi, quelle est la part de l'envie du public français d'en savoir plus sur ce qui s'est passé. Sans doute, c'est mais j'aimerais que ce ne soit pas que ça.
Alors, on va changer de sujet. Vous avez cité plusieurs fois cette notion de langue, de musicalité. Ça me fait penser à Dragen, qui est passé il n'y a pas très longtemps, dans le cadre aussi des interviews pour le festival Est-Ouest, et qui parlait justement de cette musicalité de la langue croate. Donc, moi, je connais plutôt bien la musicalité de la langue française. Quand c'est passé à la langue d'origine, qu'est-ce que vous avez recherché ? Est-ce qu'il y a quand même des similitudes ? Comment vous construisez votre...
Alors, il se trouve que je fréquente beaucoup des auteurs francophones, non français, caribéens, africains, québécois, belges, etc. Et que ça, c'est une grande discussion, c'est sur la langue qu'on adopte et qui nous adopte et dans laquelle on écrit. Et je trouve très intéressant. Je pense que chez tous ceux qui se mettent à écrire dans une langue autre que leur langue maternelle, surtout plus ils avancent dans l'âge, ça apporte la langue d'origine transpire quelque part. On crée un nouveau français, une nouvelle langue qui est hybride, dans laquelle on trouve exil, c'est-à-dire dans laquelle on trouve refuge. Et en même temps, moi je pense que chez moi il y a quelque chose dans le débit, dans le rythme, dans la musicalité, quelque chose de slave, une musique slave qui transpire. J'ai l'impression. Après, est-ce qu'elle est détectable pour les lecteurs? J'en sais rien. Mais souvent, même des tournures, quand je m'y penche, je me dis « Ah tiens, ça c'est une tournure de serbo-croate qui est en train de se frayer sa place dans... »
Vous pouvez faire une description précise là?
Je ne peux pas faire de description, mais je peux citer un très très grand auteur congolais qui s'appelle Sonny Laboutansi, décédé malheureusement. Donc congolais, des deux rives, aussi bien de Brazzaville que de Kinshasa, romancier, dramaturge aussi, et qui a une grande influence sur la nouvelle génération d'auteurs congolais, et qui avait une formule du genre où il disait « Je ne suis pas le propriétaire de la langue française, je n'en suis que le locataire, comme tous les locataires, je paye un loyer, et mieux encore, j'apporte des aménagements dans la maison. » Et je trouve que c'est ça, au fait, que après, est-ce que je peux... Non, là, si je commence à chercher, ça va durer des plombes et je ne trouverai pas d'exemple parlant. Mais il y a ces choses-là, c'est presque une tradition littéraire française. Le nombre d'auteurs qui ont trouvé refuge dans la langue française est énorme. La langue de Gary est une langue de quelqu'un, de Romain Gary est une langue de quelqu'un qui vient du russe, du polonais, de l'anglais, etc., d'un tas de langues et qui trouve refuge dans le français. La langue de Kessel, la langue de Beckett, la langue de UNESCO, enfin, c'est les exemples dans la littérature française. Et aujourd'hui, tous ces gens-là sont pas considérés comme des écrivains francophones. Ils sont considérés comme de grands écrivains français. Bien sûr. Il se trouve qu'à un moment donné, ils étaient aussi exilés, réfugiés, immigrés, etc. Et que leur français était aussi teinté de leur langue maternelle.
Alors, peut-on savoir, est-ce que c'est uniquement parce que vous avez été promené dans certains pays francophones africains que vous avez adopté cette langue, ou est-ce qu'il y a un vrai désir, pour le coup, littéraire, justement, de musicalité, de...
Je pense que c'est vraiment un peu le hasard et le hasard et beaucoup de chance, parce que consciemment, à 5-6 ans, je m'en fichais complètement en quelle langue je m'exprimais. À partir du moment où je pouvais jouer et communiquer avec les autres enfants, c'était parfait. Et donc le français a été présent très tôt, m'a accompagné pendant mon adolescence. Quelque part, c'était presque évident qu'au moment de l'université, c'est dans cette langue-là que j'avais envie d'étudier. Aujourd'hui, bien sûr, quand j'ai la possibilité de lire dans d'autres langues, notamment en anglais, en serbo-croate aussi, je me rends compte de cette immense richesse. Enfin, que c'est presque intimidant de se dire j'écris dans une langue qui a un tel héritage littéraire que quelque part il y a presque plus rien à y dire, enfin à en dire. Mais ce doit être le cas aussi quand on écrit en russe. Je pense qu'il y a des littératures comme ça qui sont des monuments, qui sont tellement immenses qu'elles sont un peu intimidantes.
Mais justement, vous avez bien fait de citer un certain nombre d'auteurs qui ont renouvelé cette littérature en venant de l'extérieur. C'est donc votre cas.
J'espère, merci.
En tout cas, vous venez de l'extérieur, ça c'est au
départ. Ça c'est un fait.
On verra pour plus tard. La postérité dira, il faut mourir avant, il paraît.
Oui, il faut. Mais il paraît que de toute manière, il faut mourir, donc...
Voilà. Et maintenant, pour revenir sur votre participation au Festival Est-Ouest, vous êtes là pour présenter des pièces, justement, des livres particulièrement
Oui, il y a plusieurs, parce que j'ai pas une actualité littéraire très enfin on va dire immédiate. Il n'y a rien qui est sorti là lors de cette rentrée littéraire, et puis les choses à venir sont pour un peu plus tard. Donc il y a plusieurs livres qui circulent, et puis quand sont des rencontres scolaires, ça tourne beaucoup plus autour d'un roman qui s'intitule Orage et qui est paru chez Actes Sud Junior en 2008, donc qui est adressé aux ados et aux jeunes adultes. Je pense qu'en sont des rencontres tout public, plutôt pour adultes, ça tourne pas mal autour d'un des livres qui date d'il y a quelques mois, qui s'intitule Lettres de Beyrouth et qui est un recueil de chroniques que j'ai écrit durant
un voyage,
durant un séjour à Beyrouth. Quand ce sont des publics plus portés vers le théâtre, on va plus parler de mes textes théâtraux. Donc c'est un peu.
Comment passe-t-on d'un genre à l'autre ? Je recite encore une fois l'interview avec Dragène, où je lui avais demandé de m'expliquer comment on peut passer assez facilement de la poésie au roman, qui pour moi me paraît quand même deux choses vraiment antinomiques. Alors là on a le théâtre, la chronique, c'est pas du tout la même manière de s'exprimer, même d'un point de vue littéraire.
Alors, pour moi, c'est toujours de l'écriture. Ce sont juste des formes différentes. Et ce qui est l'avantage de l'une peut devenir son propre inconvénient, et inversement. J'aime le roman comme forme parce que déjà c'est ce que je lis le plus. Je suis une lectrice de romans avant toute chose, et le roman permet de prendre le temps, permet de rentrer dans des subtilités, dans la psychologie des personnages, dans des subtilités de description, de jouer sur le rapport au temps, etc., de s'installer dans quelque chose. Ça me plaît beaucoup. D'un autre côté, le théâtre, la part orale d'une écriture théâtrale demeure très importante. J'aime bien l'idée de me dire tout doit passer par les dialogues. Justement, quand on ne peut pas dire qu'un personnage a peur, ou qu'il pense à sa mère, ou qu'il a froid parce qu'il neige dehors, comment on le fait passer sans le dire comme ça ? Comment dans un dialogue on le fait passer ? Comment dans une situation on le fait passer ? Donc ça demande à avoir recours à d'autres, à des ellipses, à des choses qui touchent peut-être plus à la poésie, à des transpositions. Et quelque part, j'aime bien passer de l'un à l'autre parce que ça permet de respirer, ça me permet de me renouveler. Et aussi, des fois, la forme s'impose d'elle-même. Je pense quand une image commence à me hanter, quand un début d'histoire ou un personnage commence à me trotter dans la tête, assez rapidement, je sens que c'est plutôt la forme théâtre qui viendra, ou que c'est la forme roman. Quelque part, le sujet va définir la forme. On sent très vite, enfin moi je sens très vite que tiens, ça c'est du théâtre, ça ce sera du théâtre. J'ai pas la matière pour un roman, ou tiens, là si je vais dans le roman, ça va devenir un truc beaucoup trop explicite, et j'ai envie de quelque chose de plus transposé, de plus poétique, de plus imagé. Donc le théâtre s'y prête plus. C'est pour moi c'est juste deux facettes d'un même travail.
Et vous n'êtes pas du tout metteuse en scène après? C'est forcément, il y a toute l'image, j'allais dire l'imaginaire, mais qu'il n'y ait plus, mais la maîtrise de la technique théâtrale qui doit hanter à chaque fois, vraiment. Se dire, tiens, tel personnage, tel décor même.
Alors ça, au contraire, mes premières pièces, je pense, étaient très influencées par le fait qu'au départ, j'étais comédienne puis metteur en scène. Et au fait, j'ai fait un immense travail pour me libérer de ça, et c'est-à-dire ne pas du tout réfléchir comme une metteur en scène au moment où j'écris. Au début, j'y pensais beaucoup. Je me disais, oh là là, non, là, il faut que je supprime ce personnage parce qu'une pièce avec trop de personnages, c'est immontable, il n'y a pas de sous aujourd'hui.
C'était presque un script de film.
Voilà, et je pensais production, je pensais distribution, je pensais, oh là là, non, ça, je ne peux pas le mettre parce que ça ne sera pas jouable dans des petits théâtres et tout. Et je pense que ce n'est pas bien, que quand on écrit, il ne faut pas y penser. Il faut laisser l'imaginaire partir, et après c'est le boulot du metteur en scène excusez-moi l'expression, de se démerder avec ça. Et aujourd'hui, vraiment, quand j'écris du théâtre, j'essaye vraiment d'être auteur et de ne pas être metteur en scène et de me dire, vas-y, écris comme ça vient. Si tu veux qu'un train la passe à toute allure et qu'il rentre dans une montagne et creuse un tunnel, ne te pose pas la question comment on peut mettre ça en scène. Ça, un jour, si toi-même tu le mets en scène, tu te poseras la question, ou alors encore mieux si c'est quelqu'un d'autre va se prendre la tête avec ça. Mais en tant qu'auteur, il ne faut vraiment pas se censurer. C'est-à-dire, il faut... Et je pense que la mise en scène est une écriture, une autre forme d'écriture qui a tellement de ressources que finalement, il n'y a rien qui est impossible. Donc maintenant, vraiment, je pense que j'y arrive, que j'arrive à ça, de me dire, j'écris comme une auteure et pas comme une metteur en scène. Et dans une des dernières pièces, ben voilà, il y a un arbre qui se transforme, enfin qui fleurit en plein milieu d'une scène. Et je ne veux pas savoir comment le ou la metteur en scène vont se débrouiller avec ça un jour. Peut-être que ce sera moi, parce que au stade de l'écriture, moi j'ai besoin qu'au pile, au moment où tel personnage dit telle réplique, ben, l'arbre fleurit. Et puis après, on se débrouille.
Et ça vous est arrivé de devoir vous démerder avec vos propres textes?
Oui, oui, mais c'est...
On maudit l'auteur?
À l'écriture, justement, une de mes premières pièces qui s'intitule 14 minutes de danse, qui traite de la guerre, après pas particulièrement et uniquement de la guerre en ex-Yougoslavie, mais qui est un huis clos entre un homme et une femme. Je l'avais écrit vraiment en pensant à des acteurs très précis, en pensant à la mise en scène, en écrivant des tartines de didascalie très détaillées sur comment ce devrait être mis en scène. Et puis, il se trouve que je l'ai monté quelque temps après, assez rapidement après l'avoir écrite, avec les acteurs pour lesquels j'avais écrit. Et donc, normalement, elle devait être montée puisque tout était écrit. Et une fois confrontée au plateau, à ses acteurs, à leur énergie, ben je me suis rendu compte que ce que j'avais écrit, c'était du pur fantasme et que ça ne marchait plus du tout parce que l'énergie qu'il déployait sur le plateau ne correspondait absolument pas à cette écriture enfin, didascalique qui existait. Et donc, j'ai travaillé contre mon propre texte. J'ai décidé de laisser tomber toutes les didascalies et de chercher à partir du plateau ce qui était le au plus près, au plus juste de l'énergie de ces deux acteurs. Et cette part-là, je l'ai complètement réécrite scéniquement parce que ce que j'avais écrit au départ ne fonctionnait pas. Fonctionne très bien à la lecture. Ouais. C'est-à-dire que pour un lecteur, permet de suivre le texte et de voir cette part corporelle qui est très importante dans ce texte. Mais je pense que si on faisait mot à mot ce qui est écrit en termes de chorégraphique, ce serait d'un ennui mortel. Donc oui, bien sûr, ça m'est arrivé très, très fréquemment. Donc maintenant, j'essaye de mettre le moins de didascalie possible ou alors juste des choses d'ambiance comme ça qu'on peut transposer. Voilà, un arbre qui fleurit en plein milieu d'une scène, ben, moi je sais ce que ça m'évoque, après chacun en fait ce qu'il veut. C'est... Peut-être qu'il n'y aura pas d'arbre et qu'il ne fleurira pas.
Ça permet de glisser tout doucement sur un débat moi, qui m'intéresse assez, la transposition d'un texte sur un autre type de support. Alors bon, là vous êtes habitué justement, puisque vous proposez des pièces de théâtre qui vont être mises en scène, parfois pas par vous. Alors jusqu'à quel niveau vous acceptez qu'il y ait une adaptation? Et puis pour les romans, et imaginons si un jour des droits cinématographiques sont demandés, est-ce que là aussi vous avez envie de laisser une totale liberté à ces metteurs en scène, ou est-ce que vous leur avez donné suffisamment d'éléments dans le littéraire pour qu'ils ne soient pas trop dans l'adaptation folklorique?
Il faut apprendre à lâcher prise, je pense, ce qui n'est pas du tout évident. Il m'a fallu aussi du temps et des fois j'ai pu être dubitative par des mises en scène ou froissée par des choses que je pensais ne pas être comprises, etc. Mais je pense vraiment qu'il faut lâcher prise, qu'une fois que le texte est terminé, édité, etc., que quelqu'un d'autre s'en empare, il faut accepter qu'il va vivre sa vie et qu'il ne nous appartient plus et qu'on ne peut pas contrôler. Et après, croiser les doigts très fort et espérer que ça tombe sur un ou une super metteur en scène ou réalisateur, réalisatrice qui vont en faire quelque chose d'absolument merveilleux. J'ai eu de très bonnes surprises aussi, des choses où où des gens se sont, notamment, j'ai envie de citer Philippe Forgeot, qui travaille dans la région du Limousin, à Guéret, je crois, et qui a fait une mise en espace d'une de mes pièces qui s'intitule L'histoire de la princesse, où c'est une pièce qui est écrite pour énormément de personnages, etc. Et justement, j'avais mis en amont des notes très claires, il ne faut pas que des personnages soient doublés, il faut que ce soit un acteur distinct à chaque fois, et tout ça, qui n'a respecté rien de tout ça, qui a fait jouer ses 20-30 personnages par 4 acteurs, qui a doublé des rôles où justement je disais il faut que ce soit des actrices différentes à tout prix, et qui l'a fait avec tellement d'intelligence et une intuition, un feeling tellement juste que je crois que c'est une des mises en scène de mes textes que je préfère jusque-là. Donc ça n'a rien à voir au fait. Je pense que les gens qui comprennent l'essence d'un texte, ils peuvent se permettre tout et que ça va être très juste et que l'auteur sera content. Enfin, retrouvera son texte, que c'est vraiment beaucoup plus subtil que ça. Et puis d'autres mises en scène, que je ne citerai pas, où on avait presque respecté les didascalies à la lettre et que je ne trouvais pas ça très réussi parce que je pense qu'on est passé à côté de l'essentiel du propos. Voilà, à partir du moment où on accepte de céder ses droits,
on cède ses droits.
Au moment de l'édition, on cède ses droits de toute manière à l'éditeur. Après, les éditeurs ne sont pas tous des salauds. Les miens, en l'occurrence, s'il y a des propositions, bien sûr qu'ils me posent la question. Après, on a aussi des rêves. Par exemple, pour Orage, qui est ce roman pour ados, j'ai une espèce de rêve irréalisable. J'aimerais beaucoup que ce soit ce réalisateur. Si un jour les droits sont vendus, etc., j'aimerais beaucoup que ce soit réalisé par Fatih Akim, qui est ce réalisateur allemand d'origine turque, parce que je trouve que l'ambiance du roman est très proche de l'ambiance de ses films, mais peut-être que ce sera réalisé par quelqu'un d'autre. Réussi, raté, j'en sais rien, mais vraiment j'essaye de me dire ça ne m'appartient plus. Voilà, c'est...
Est-ce que par hasard, vous auriez fait peut-être un travail d'approche de ce type de gens ? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ?
De dire, je ne le fais pas, moi, parce que je trouve qu'il ne faut pas faire tous les métiers en même temps et que ça...
Oui.
Les maisons d'édition ont des gens qui s'occupent de la cession des droits et qui...
Et qui cherchent à placer les livres, ça, je ne savais pas, ça. Éventuellement des livres pour des droits cinématographiques.
Je pense, après, je ne sais pas à quelle mesure... jusqu'où ils vont, pour quels livres, etc. Je pense que les droits des livres d'Anna Gavalda sont sans doute beaucoup plus rapidement placés que les droits de livres d'un sombre auteur originaire des Balkans dont personne n'a entendu parler. Mais j'essaye de me dire, voilà, c'est d'autres métiers. Comme il y a des relations publiques, des attachés de presse, ben, il y a des gens qui s'occupent de la cession des droits. Et je pense que les maisons d'édition le font autant qu'elles ont les moyens, puisque c'est aussi une source de revenus pour eux. Donc, et après, souvent, c'est des histoires de hasard. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'un livre, à un moment donné, va tomber dans les mains de quelqu'un qui...
Parfois, simplement, ils l'ont lu eux-mêmes. Ils sont allés en librairie le prendre.
Voilà, des fois, ça arrive comme ça. Donc, bon, j'essaye de me dire, bon, mon boulot, c'est d'écrire. Et après, advienne que pourra.
Pour parler d'autres possibilités que l'écriture sur le Festival Est-Ouest, vous avez parlé de certaines lectures, rencontres littéraires. Est-ce que vous participez à des tables rondes aussi ?
Il y en a eu une dimanche 23.
Donc sur des sujets qui ne sont pas forcément littéraires, hein, on est d'accord ?
Alors là, c'était assez littéraire,
ah bon ?
le sujet, puisque je crois que c'était entre réalisme et imaginaire, quelle source d'inspiration pour la littérature croate ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, je crois que lors de ces tables rondes, tous les participants, on s'est assez bien débrouillés pour tourner autour du sujet et jamais le traiter vraiment.
Ceci dit, moi, je l'ai pas compris le sujet là.
Entre réalisme et imaginaire, quelle source d'inspiration pour la littérature croate ?
C'est étonnant.
On peut poser cette question-là pour toutes les littératures du monde. Hein. C'est, oui. c'est un peu une question ouverte qui permet de parler de plein de choses. Non, j'ai pas participé à d'autres tables rondes. Je pense que c'est une question de calendrier aussi. Et puis aussi, sur tout ce qui était plus politique ou économique ou social, j'avais un peu prévenu Harold David et Isabelle Catois, donc qui programme ce festival, que je vis en France et oui, je suis très peu là-bas, et je pense que je ne suis pas la personne la plus compétente pour parler. Vaut mieux s'adresser à des gens qui vivent là-bas et qui sont présents dans la vie politique, littéraire, universitaire en Croatie, plutôt que moi qui suis ailleurs, quoi.
Sonia Ristić, merci d'avoir participé à cette interview. Est-ce que vous avez un site internet ? Est-ce que vous avez des informations là où les gens pourraient vous trouver très vite ?
Bah, on trouve très vite, je pense, quand on tape mon nom dans Google.
Voilà. Bon.
Et puis, on trouve très vite les choses.
Vous n'avez pas une interface où vous discutez avec vos fans, etc.
Non, pas du tout. Je suis pas très geek, mais, mais en tout cas, dans toutes les bonnes librairies, on peut commander mes livres. Donc voilà.
On peut commander du Sonia Ristić.
Oui. Tout à fait.
Très bien. Et vous en avez écrit combien des pièces et des livres pour un titre d'information ?
Il y en a beaucoup de publiés à ce stade-là. Il y a un roman, un recueil de chroniques et 5 pièces et des choses à venir là, dans l'année qui vient. Donc voilà, 5-6 ouvrages pour l'instant.
Bon, donc il y aura peut-être bientôt une rentrée littéraire.
Oui, je pense.
Eh bien, merci à vous.
Merci à vous.
1 Terre Vue.
Ok, le beurre.
L'interview du jour.